La revue de presse, c'est avec vous. Bonjour Jean-Philippe Ballas.
Bonjour à toutes et à tous.
Dans les journaux ce matin, question de générosité.
Ouais, générosité et pugnacité. Deux mots impeccables pour vous présenter Soline Villard, jeune femme de 23 ans, qui vous attend dans les pages de la République du Centre. Soline est donneuse, c'est-à-dire qu'elle donne de tout, de son temps, de son sang. Bon, même si elle a un peu horreur des aiguilles, ne m'en parlez pas. Et à force de traîner dans les salles d'attente, Soline remarque un jour une affiche qui parle de moelle osseuse. Ni une ni deux, Soline s'inscrit sur le fichier des donneurs volontaires. Tout cela est logique. Et c'est ainsi que 2 ans plus tard, l'étudiante reçoit le coup de fil qui fait tout basculer. Un malade a besoin d'elle. Un inconnu à des milliers de kilomètres d'Orléans, quelque part aux États-Unis. Il y avait une chance sur 1 million pour que Soline soit compatible. Mais la suite ne va pas être de tout repos. D'abord, il faut passer tout plein d'examens. Et je vous rappelle que Soline a horreur des piqûres. Mais bon, elle s'accroche. Et puis surtout, le premier chirurgien qui doit l'opérer, ce chirurgien se casse la main la veille de l'intervention. Il faut tout décaler. Soline ne veut rien savoir. Elle demande à être transférée immédiatement dans un autre hôpital à Paris. Puis c'est le futur greffé qui fait une rechute en Amérique et qu'il faut isoler. Nouveau contretemps. Bon, à ce stade de l'histoire, on est tous d'accord. Certains auraient pu commencer à gamberger, mais pas Soline, puisque Soline est en mission. Finalement, l'opération s'est bien déroulée. Le 13 décembre dernier, vous dit le journal. Puis la moelle a traversé l'Atlantique. Soline a tenu à écrire une petite lettre en anglais dans laquelle elle remercie le malade. Oui, elle le remercie pour cette expérience unique et fantastique. Quand on vous dit que Soline est généreuse et qu'elle est pugnace.
Vous nous parlez maintenant, Jean-Philippe, de Monsieur le maire.
Et lui aussi a dû se retrousser les manches à sa manière. Monsieur le maire de la commune d'Ouge, dans la métropole de Dijon, est la une du bien public ce matin. Jean-Claude Girard, qui débarque à la cantine scolaire pour mettre la table avec ses adjoints, pas le choix. Il vient d'apprendre que 3 des 6 employés municipaux sont absents, rattrapés par qui par quoi ? Par le Covid, pardi. On aurait pu appeler les familles en urgence, vous dit Monsieur le maire, qui pense malgré tout au bien-être de ses administrés. Alors oui, il a mis le couvert pour 85 enfants, les plus petits avaient 3 ans. C'est sûr que ça doit changer du conseil municipal. N'empêche que Jean-Claude Girard, lui, n'a pas vraiment trop envie de rire. On tire sur la corde. Et c'est vraiment le sentiment qui prédomine ce matin dans vos journaux, avec ses classes et ses hôpitaux au bord de la crise de nerfs, titre Sud-Ouest. Des parents déboussolés en première page du Télégramme, des grands-parents qu'on appelle à la rescousse dans l'Alsace, sans parler des enseignants irrités dans la Voix du Nord. « Notre école va craquer », résume la Dépêche du Midi. Et c'est comme un cri silencieux ce matin à la une des DNA. Tout ce personnel hospitalier masqué, on ne voit que les yeux sur la photo, mais on devine les regards exténués. Et forcément, dans les couloirs, on pense à ce chiffre, 8, comme 8% de non-vaccinés. Mais de qui parle-t-on exactement ? Libération mène l'enquête au pays des irresponsables, pour reprendre les termes d'Emmanuel Macron. Alors, il ne s'agit pas ici de leur trouver des circonstances atténuantes, vous dit le journal, mais d'essayer de comprendre comment peut-on encore remettre en question ce produit dont rêvent nombre de populations défavorisées tout autour de la planète. Où l'on constate que ces réfractaires ne sont pas un bloc monolithique. Alors bien sûr, il y a les irréductibles, complotistes, outranciers, celles et ceux qui parlent de dictature, d'apartheid, ils sont là. Mais il y a aussi, estime le journal, des personnes qui sont hors des radars des systèmes de soins, ou des gens hésitants, perdus dans le brouhaha ambiant, et qui vivent souvent modestement. C'est ce que dit d'ailleurs cette chercheuse du CNRS. Quand on lui parle du pass sanitaire, elle remarque qu'il est lié à des activités payantes et qu'il a moins d'effets contraignants, forcément, sur une population qui, de toute façon, n'a pas les moyens de prendre l'avion ou d'aller au restaurant. C'est cette frange-là qu'il faut aller chercher et convaincre, avec humanité, dit-elle, et empathie.
Et vous terminez cette revue de presse, Jean-Philippe, en chanson.
Oui, parce qu'on a besoin de se faire du bien, hein, avec cette chorale, chorale réjouissante et bondissante à la une du Figaro. Bon, vous me direz que chanter en groupe, sanitairement parlant, c'est peut-être pas trop l'ambiance, mais le sujet, en tout cas, est passionnant, avec cette vaste expérimentation menée pendant 3 ans auprès des petits chanteurs de la Philharmonie de Paris. Étude scientifique qui vous dit que oui, la chorale est un facteur de cohésion sociale, de mieux vivre ensemble, de réussite scolaire. Exemple concret avec la maîtrise de Radio France, implantée à Bondy, on le sait peu, mais elle est bien à Bondy, en Seine-Saint-Denis, depuis 15 ans maintenant. Et puisqu'on est un peu à la maison, je termine avec François Morel. Jolie interview dans le magazine L'Éléphant, notre François Morel, qui vous raconte l'élément déclencheur de sa vocation quand il était gamin. Peut-être le jour où il a chanté, justement, à la communion de sa sœur. Il a adoré ce moment. François Morel, qui vous parle aussi du rire. Ça aussi, on en a besoin. Même si l'important, ce n'est pas la rigolade, mais l'émotion, précise-t-il. Il faut toujours sortir d'un spectacle avec un peu plus d'humanité, un peu plus de gentillesse, un peu plus de compassion. C'est joliment dit, monsieur Morel.
François Morel, que l'on embrasse du bout du coude. Jean-Philippe Ballas pour la revue de presse, merci.